hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Dominique Schnapper. Dominique Schnapper, vous êtes sociologue, vous avez publié de très nombreux livres sur des sujets qui deviennent hélas de plus en plus d'actualité. Vous avez commencé en 71 avec un livre consacré à l'Italie rouge et noire. Dès 1980, vous vous intéressez à la condition juive en publiant un livre qui s'intitule « Juifs et Israélites ». Cette question va revenir dans plusieurs ouvrages et nous aurons à en parler tout au long de cette émission. Vous avez beaucoup publié sur l'engagement, la citoyenneté, le concept d'intégration. Vos derniers ouvrages s'intitulent « Travailler et aimer ». Ça, c'est une sorte d'autobiographie assez pudique parce que vous n'aimez guère parler de vous. Mais j'espère que tout au long de cette émission, vous nous parlerez de votre parcours et de votre itinéraire. Le dernier s'intitule « L'esprit démocratique des lois ». J'aimerais qu'on reprenne l'un des concepts sur lesquels, sociologiquement parlant, vous avez beaucoup travaillé et qui a beaucoup évolué et qui maintenant est devenu un leitmotiv des politiques de droite comme de gauche, c'est celui d'intégration. Qu'entendrait-on par intégration aujourd'hui en 2016?
Oui, c'est un des grands problèmes des sociologues, c'est-à-dire qu'ils utilisent des termes consacrés par la tradition sociologique qui deviennent des termes publics ou politiques. Et du coup, ce qu'ils essayent de dire de façon un petit peu rigoureuse se trouve pris dans les aléas politiques. Alors longtemps, le terme d'intégration a été tout à fait refusé parce qu'il faisait allusion à la politique d'intégration en Algérie des derniers moments de la politique française en Algérie. Et évidemment, c'était un terme qui cachait toutes sortes d'autres choses que ce que nous voulons, de ce que nous appelons dans la tradition sociologique, le terme d'intégration. Et la plupart de mes collègues sociologues, du coup, refusent de l'utiliser, craignant d'être que leurs propos soient un peu pollués ou contaminés par l'utilisation publique des textes. Alors moi, je l'utilise, comme vous savez, je l'ai utilisé dans les titres même de plusieurs de mes livres, en disant que je m'inscris dans la tradition sociologique fondée par Durkheim, dont le livre fondateur, Le Suicide, est entièrement fondé sur le concept d'intégration. Et donc, c'est dans ce sens-là que je le prends. Et de ce point de vue-là, le problème est constant, puisqu'on s'interroge tout le temps sur la manière dont on fait une société, dont on forme une société. Alors évidemment, l'interrogation du temps de Durkheim et celle d'aujourd'hui n'est pas exactement la même, parce que la réalité sociale a changé, mais l'interrogation est la même. Comment est-ce que, dans une société individualiste, qui se donne le bien-être des individus comme objet premier, comment continue-t-on à former une société et à imposer les contraintes collectives à tous les membres pour que la société reste humaine? Bon, alors aujourd'hui, effectivement, on se rend compte bien que c'est un problème central et qu'il a pris aussi des formes renouvelées par l'actualité politique.
N'avez-vous pas l'impression que du temps de Durkheim, il y avait un horizon beaucoup plus universaliste et une nécessité de l'intégration revendiquée beaucoup plus par le pacte républicain qu'aujourd'hui? Et avez-vous la sensation qu'aujourd'hui, et cela allant peut-être à toute vitesse, il y aurait une sorte de montée des communautarismes qui s'opposerait frontalement à la possibilité même de l'intégration?
Oui, il y avait sans doute, en tout cas chez les Républicains, qui nous ont laissé le souvenir et de leurs écrits et de leur politique, il y avait sans doute, certainement même, une adhésion plus forte aux valeurs qu'on résume sous le nom de pacte républicain, c'est-à-dire les valeurs de liberté, d'égalité, de laïcité, qui permettent à des gens de religions différentes de vivre ensemble. À ce moment-là, c'était pour les gens les plus marginaux, ou ceux sur lesquels portait l'interrogation de l'intégration étaient probablement plutôt les marginaux socialement. Aujourd'hui, nous avons des problèmes différents. Nous avons maintenant une société où les valeurs politiques communes sont revendiquées en parole, mais on donne à beaucoup des populations qui forment la population nationale le sentiment qu'elles sont invoquées plutôt qu'appliquées. Et nous avons un phénomène nouveau, c'est que la France a longtemps été un pays d'intégration de populations venues d'autres pays. Ça a été un grand pays d'immigration, au même titre que les États-Unis. Et les populations qui venaient former la population française désiraient toutes participer au projet national et aux valeurs universelles. Et en une et deux générations, elle forme aujourd'hui la population française. Aujourd'hui, nous avons le sentiment, et je crois que c'est objectivement vrai, qu'il y a moins de convictions sur, disons, l'avantage ou la supériorité d'être français, et que, étant donné ce que devient la société démocratique, chacun cherche plutôt à affirmer sa propre identité, qu'elle soit réelle ou fantasmée ou transmise ou inventée, enfin, mais des formes d'identité propre plutôt que l'identité commune à toute la société nationale. Et donc le problème se pose autrement, et puis se pose géopolitiquement autrement également, puisque ce n'est pas la même chose d'intégrer des populations voisines ou des populations lointaines, c'est pas la même chose d'intégrer dans un certain cadre national, et dans un cadre national surtout qui a beaucoup changé dans ce que j'appelle, à la suite de Montesquieu, la démocratie extrême.
Alors la démocratie extrême, y sommes-nous ou est-elle questionnée? C'est aussi une des questions que la sociologue que vous êtes depuis des décennies peut, j'imagine, poser constamment avec cette actualité ô combien bruyante et alarmiste. Vous qui avez siégé au Conseil constitutionnel parce que vous étiez une grande sociologue ayant travaillé sur des concepts comme la montée de l'individu, la citoyenneté, l'intégration, etc. Êtes-vous d'accord avec certains membres de l'actuel Conseil constitutionnel pour nous alerter, nous Français, sur une espèce de dépossession de la justice par rapport aux politiques?
Je ne sais pas si c'est à cause de mes qualités de sociologue ou par hasard que j'ai été nommée au Conseil constitutionnel. En tout cas, ça a été une expérience très très heureuse pour moi. Je ne sais pas si j'ai été utile au Conseil, mais certainement l'expérience que j'y ai acquise m'a été en tout cas utile. Le Conseil lui-même prend des décisions très républicaines entre guillemets, c'est-à-dire que il ne cède pas du tout à des dispositions qui pourraient consacrer ou faire évoluer vers le communautarisme, que ce soit sur les langues régionales, que ce soit sur l'accord. Il y a une tradition extrêmement républicaine du Conseil constitutionnel. Mais le problème réel, c'est que le problème de fond, c'est que nous ne sommes peut-être pas dans une démocratie extrême, mais il y a certains signes qui montrent qu'on pourrait dériver vers la démocratie extrême, c'est-à-dire vers le privilège donné aux individus par rapport aux contraintes du collectif. Or, nous devons, dans nos sociétés, conjuguer la liberté des individus et le respect des contraintes collectives, faute de quoi nous tombons dans un système qui est aux dépens des plus fragiles ou des plus marginaux. Donc, il faut admettre un certain nombre des contraintes du collectif, et les contraintes du collectif ne peuvent être acceptées qu'au nom de certaines valeurs communes, puisqu'elles apportent inévitablement une certaine limite à la liberté des individus. Et donc, ils peuvent l'accepter si c'est au nom de valeurs comme la liberté ou la solidarité avec les autres, en fonction des valeurs qui nous font vivre ensemble. Et nous avons certains signes qui montrent qu'on n'est pas dans la démocratie extrême, puisque la démocratie extrême voudrait dire qu'on ne respecte plus les institutions. Or, être démocrate, c'est respecter les institutions démocratiques. Et si on ne respecte pas les institutions démocratiques, on sort de la démocratie. Or, nous avons certains signes qui peuvent nous rendre inquiets sur la possibilité du moment où la démocratie dériverait en démocratie extrême.
Alors, dans cette montée de l'individualisme, elle a pour conséquence notamment des effets pervers comme justement cette démocratie qui pourrait être malmenée, cette montée des revendications au nom de soi-même. Je le rappelais tout à l'heure, vous avez publié dès vos débuts de travaux universitaires un livre sur la condition juive. En 2009, vous avez publié un livre collectif qui s'intitule « La condition juive en France » sous-titré « La tentation de l'entre-soi ». Aujourd'hui, l'actualité, hélas, nous le montre récemment à Marseille avec cette histoire d'agression. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait imaginer dire une chose comme nous assistons en France à un retour de l'antisémitisme ?
Je crois que nous assistons à un retour de l'antisémitisme. Il n'a pas commencé avec l'épisode de la Kippa qui a ému tout le monde. Quand nous avons fait cette enquête avec Chantal Bord-Benayoun et Freddy Raphaël, nous avions eu beaucoup de difficultés à interviewer beaucoup des personnes que nous souhaitions interroger parce que l'antisémitisme avait reparu de telle façon qu'elles étaient extrêmement craintives. Et c'était une première étape, puisque l'enquête s'est déroulée dans les années 2004-2005. Et puis, ensuite, il y a eu la montée à partir de Ilham Halimi, le drame de ce malheureux, de ce malheureux garçon. Puis les épisodes successifs, l'affaire Mera, vous connaissez les épisodes successifs.
Et la population... L'hypercachère.
Pour l'instant, ça s'est terminé, entre guillemets, avec l'hypercachère... du mois de janvier 2015. Mais on a dit aujourd'hui que le nombre des attentats contre les musulmans avait considérablement augmenté, mais il reste encore à moitié de ceux qui touchent les juifs. Il va de soi que les uns comme les autres sont regrettables. Mais pour en revenir au problème juif, oui, quand j'avais fait cette première enquête entre 75 et 80, l'antisémitisme était marginal dans ses expressions, en tout cas. De l'enquête que nous avons faite au début de ce siècle et qui a été suivie de d'autres travaux montre que de marginal dans certains milieux marginalisés politiquement de l'époque, c'est devenu un des phénomènes centraux qui révèle une espèce de dissolution, disons, des liens sociaux. C'est toujours un signe redoutable. Il y a deux grands signes, c'est les juifs et les femmes, qui sont signes quand la démocratie est attaquée. C'est vraiment des signaux qui permettent malheureusement de voir que la démocratie est en tant que telle remise en question. Et indiscutablement, la montée de l'antisémitisme est un phénomène qu'on ne peut plus dissimuler, on ne peut pas se cacher. Un tiers des enfants juifs seulement fréquentent l'enseignement public parce qu'ils n'y sont pas en sécurité.
Alors s'il y a bien un homme qui a compris ce qui était en train de se passer en Allemagne et ce dès l'accession au pouvoir de Hitler, c'est bien votre père, Raymond Aron. Nous allons écouter la voix de votre père. C'était au micro de Jacques Chancel le 23 juin 1969.
Je sais que comme tout le monde, mes chromosomes, mes gènes, me destiner à telle ou telle chose, mais que la personne que je suis a été marquée par son milieu familial, par ses études et par les événements historiques que j'ai vécu intensément. Ma première découverte de l'histoire a été au printemps de 1930, quand je suis arrivé pour la première fois en Allemagne, quelques mois avant les élections de septembre, où les nationaux-socialistes ont remporté 107 sièges au Reichstag. Et alors là, j'ai découvert, enfin, ce que les Allemands appellent le caractère démonique de la puissance et de la politique. Alors, dire, auriez-vous souhaité un autre siècle ? Certainement, je n'en souhaite pas un autre, mais ça n'a aucun sens, parce que on ne peut pas se mettre par la pensée dans un autre siècle, soi-même étant ce que l'on est, car on aurait été autre dans un autre siècle. Alors, écartons cette question. J'ai pris mon siècle comme il est, je continue à le prendre comme il est,
Mais vous ne l'aimez pas tellement, ce siècle.
Comment aimer le siècle de Staline et de Hitler? Vous voyez, je dirais que être optimiste à notre époque, c'est dire le pire n'est pas toujours certain. Et c'est une forme d'optimisme qu'on peut appeler non pas désespéré, mais à la limite du désespoir. Or, c'est la forme d'optimisme à laquelle je suis arrivé. Après les expériences que nous avons vécues, que j'ai probablement vécues un peu plus que vous, puisque je suis plus vieux que vous, et que j'ai ressenti Hitler, l'antisémitisme, la Grande Guerre, l'Holocauste. Comment l'ai-je ressenti? Avec un mélange de révolte, de déchirement et d'espoir malgré tout. Car en dépit de la réputation de pessimisme que l'on me fait, je ne suis pas du tout un pessimiste, en tout cas pas un résigné.
Vous êtes lucide. Pas résigné, mais lucide.
J'essaye de voir le monde tel qu'il est, et après tout, l'humanité tout entière est une aventure dont nous ne connaissons pas la fin. Je pense que, fondamentalement, l'ensemble de mon œuvre, depuis ce que j'ai écrit avant la guerre, c'est-à-dire l'introduction à la philosophie de l'histoire, jusqu'à ce dernier livre qui a paru il y a 8 jours et qui s'appelle Les désillusions du progrès, c'est un dialogue avec le marxisme, d'un bout à l'autre de mon existence, sur à la fois les conditions de la philosophie de l'histoire, problème formel, abstrait, et les conditions de la connaissance historique, sur le problème de ce qu'est la société moderne, à la fois sous sa forme socialiste et la forme capitaliste, et quelles sont les conditions de l'action politique et de l'action historique. Si je pourrais dire que l'ensemble de mes livres remplissent les différents chapitres que Marx avait indiqués dans le plan du Capital, écrit en 1857-58, plan du Capital qu'il n'a pas suivi jusqu'au bout, car le Capital tel que nous le connaissons ne représente qu'un petit fragment du Capital qu'il voulait écrire. C'est-à-dire, il ne voulait pas simplement analyser l'économie, mais il voulait, à partir de l'économie, analyser l'ordre social, à partir de l'ordre social, analyser l'État, à partir de l'État, analyser les relations internationales. Bien entendu, je n'ai rien fait de comparable à l'œuvre de Marx, mais je veux dire que mon œuvre, qui a l'air dispersée, a une unité. L'unité, c'est le projet scientifique de comprendre la société moderne et de comprendre comment on la comprend.
Nous venons d'entendre la voix de Raymond Aron. C'était dans l'émission de Jacques Chancel du 23 juin 1969. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette archive, Dominique Schnapper. D'abord, effectivement, il faut dire et redire ce qui est assez méconnu, c'est que Raymond Aron a été l'un des plus grands analystes de Karl Marx et de son œuvre. Et que ça, c'est à lire et à relire, parce que c'est très, très éclairant encore aujourd'hui. Et puis, il parle de cette expérience qui est un peu méconnue dans l'itinéraire de Raymond Aron. Quand il était à Normale Sup, il a pu devenir lecteur dans une université européenne. Et il a fait comme Jean-Paul Sartre, il est parti pour Berlin. Mais Jean-Paul Sartre n'a rien vu, rien compris, abîmé dans ses histoires de philosophie. Alors que votre père, Raymond Aron, lui, a compris immédiatement, dès 1930, ce qui était en train de se constituer comme totalitarisme en Allemagne. Est-ce qu'il vous en a parlé de ces années-là?
Je crois qu'effectivement, tous ces choix intellectuels sont issus de cette expérience de l'Allemagne entre 30 et 33. Il était encore en Allemagne quand, le 30 janvier 1933, il a vu donc les premiers mois de l'expérience hitlérienne. Et très souvent, mes parents, puisque ma mère l'avait rejoint quelques mois, mes parents en ont toujours beaucoup parlé. Et je pense que le sens de ces engagements politiques, de la lutte contre le totalitarisme, les totalitarismes, est issu de cette expérience qui, pour un bon républicain de la Troisième République, de sensibilité de gauche, comme l'École normale les produisait, a été une expérience extrêmement profonde et traumatisante. Et il raconte comment, au retour, allant voir quelqu'un au Quai d'Orsay pour lui expliquer la situation, Le diplomate lui a dit « Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et évidemment, il avait fait un exposé brillant sur la situation en Allemagne et il n'a pas su répondre à cette question. Et il s'est donné comme règle de penser la politique en se demandant chaque fois « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ça, ça l'a rendu, original dans le monde des intellectuels français qui, trop souvent et très souvent, se pose en analyste ou en donneur de leçons ou en aspiration, souvent sympathique, éventuellement riche d'idées, mais qui n'aident pas à prendre les décisions politiques et qui sont donc contraires à ce qu'est la politique.
Il fut résistant de la première heure. Il va rejoindre le général de Gaulle. Oui, ben on peut pas faire mieux quand même. Juin 40. Il vous a évoqué ces années-là parce que vous êtes né pendant la guerre.
Non, je suis né bien avant la guerre. Je fais partie de la génération pour laquelle la guerre n'est pas une abstraction. C'est-à-dire, j'ai eu entre 5 et 10 ans pendant la guerre.
Vous avez des souvenirs?
J'ai des souvenirs qui sont pas des souvenirs d'analyse historique ou politique, mais j'ai des souvenirs très impressionnants, comme le retour à Lutetia et la sœur de Jean Cavaillès qui allait tous les jours voir si son frère était parmi ceux qui revenaient. Et quand on a 10 ans, on est capable de sentir, disons, le tragique de cette situation politique. Donc, ceux qui ont fût 2 ou 3 ans de moins que moi n'ont pas cette expérience directe. Et mon époux, son père a été déporté. Il avait des souvenirs très très vivants de la guerre, de sorte que nous n'en parlions peu. Mais je suis convaincue que l'expérience indirecte, très indirecte bien sûr, de la Shoah a été extrêmement importante pour façonner nos personnalités et nos manières de vivre après la guerre. Nous n'avons pas connu 30 et 33, mais l'expérience de la guerre veut dire encore quelque chose pour nous. Et nous sommes les derniers pour lesquels ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose qui tient à l'expérience. Je me souviens, j'étais en Angleterre, je me souviens de l'annonce du débarquement de juin 44 et ce que ça signifiait pour tous les élèves de l'Institut français où je me trouvais. Donc, la guerre n'est pas abstraite pour moi. C'est une expérience que je n'ai pas vécue dans toutes ses dimensions, j'étais trop jeune, mais c'est tout de même une expérience qui fait partie de ma personnalité.
Vous avez quitté Londres à quel moment ?
Je suis arrivée à Londres en 43 et je suis revenue tout de suite après la guerre en 45. On avait offert une très belle chaire à mon père à Londres, mais il n'avait qu'une idée, c'était de revenir à Paris et de revenir en France. Et donc nous sommes revenus dès 45.
Ce qui est étrange, c'est que votre père, qui aurait pu choisir un destin politique, a préféré toujours rester un intellectuel et un universitaire et un grand professeur.
Il n'aurait pas pu faire de la politique. Maintenant que j'ai vu des politiques d'un peu plus près au Conseil constitutionnel, il avait trop de goût pour la vérité, il avait trop de goût pour l'analyse, il n'aimait pas perdre son temps en dehors de l'activité intellectuelle, il n'avait pas le goût des relations sociales qui ne soient pas des relations de complicité intellectuelle ou d'amitié. Évidemment, la vie politique impose toutes sortes de contraintes dans ces directions qui n'étaient pas les siennes. Donc, il a été tenté, comme tous les gens qui s'intéressent beaucoup à la politique, il l'a dit, il a été tenté. Mais je crois que c'était comme ça, comme on dit toujours tenté d'être autre chose que ce qu'on est, mais qu'il n'y avait pas de, enfin, qu'il n'était pas fait pour ça.
Nous allons entendre la voix d'une personne qui a beaucoup compté pour vous et vous avez eu la chance de le fréquenter. Je veux parler d'André Malraux qui va évoquer dans cette archive l'évolution des rapports aux œuvres d'art. C'est un entretien avec Jean-Marie Drault à l'occasion de cette exposition André Malraux et le musée imaginaire à la Fondation MAG. André Malraux.
L'art nous interroge mais nous ne répondons pas. Nous avons pris parfaitement conscience de quand nous regardons de la sculpture sur 5000 ans, cette sculpture se réfère à peu près en permanence à quelque chose qui pour nous n'existe pas. Bon. Mais ce quelque chose est senti et non pas conçu. Nous ne devenons pas bouddhistes du IVe siècle. C'est d'ailleurs excessivement intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce contact pour moi? Il fait partie de la métamorphose, pas au premier chef. Mais il n'est pas vrai qu'un fétiche nègre devienne une sculpture cubiste. Et il n'est pas vrai qu'une sculpture sumérienne devienne une sculpture cubiste. Elle est chargée de quelque chose qui a été une vérité religieuse, qui ne l'est absolument pas pour nous, et ce quelque chose est présent dans l'œuvre.
C'est curieux parce que vous parlez de l'art exactement comme un Ungan, qui est le prêtre vaudou, comme vous savez, parle de certaines poupées qu'il charge magiquement parce qu'en définitive, ce qu'il y a de curieux dans ce que vous dites, enfin, c'est que finalement, on ne sait pas grand-chose de cette sculpture sumérienne, on ne sait pas grand-chose de ce fétiche africain, on ne sait pas grand-chose même de cette poupée Hopi, mais du même coup, elle nous donne quelque chose qui est proche de ce qu'elle est, de ce qu'elle est au sens philosophique du mot, profondément. Alors
et
là, il y a un mystère, quand
et
même.
Pas, et la poupée Hopi ne nous donne pas le même sentiment que la statue sumérienne.
Voilà.
Au fond, c'est la musique inconnue. Parce que Picasso ne voulait pas de comparaison avec la musique, mais on est tout de même bien obligé de les faire. Les comparaisons de l'époque symboliste sont absurdes. Claude Monet, c'est la même chose que Debussy, laissons ça. Mais que nous puissions avoir par la musique, un contact d'une nature absolument particulière avec quelque chose de parfaitement indéfinissable, ça c'est incontestable. Toute la grande musique romantique, le contact qu'établit la cinquième symphonie n'est absolument pas de même nature que le contact qu'établit une musique contemporaine, laquelle joue énormément sur sa matière, sur la nature des accords. Donc la matière musicale, il y a quelque chose à Beethoven qui n'est pas seulement la matière musicale. Or, si vous voulez le mettre en forme, vous ne pouvez absolument pas le faire, parce que ce qu'on a beaucoup cru il y a 50 ans, c'est que si on savait ce qu'a pensé l'artiste, alors on saurait tout. Mais nous savons maintenant très bien ce qu'on pensait en Toscane autour de 1300, et si nous essayons de croire à tous ces trucs-là, ça vous est complètement égal. Vous ne pouvez pas regarder un Giotto en pensant que l'important, c'était d'imiter la nature.
Que vous a apporté André Malraux, que vous avez connu extrêmement jeune, Dominique Schnapper?
Oui, je l'ai connu comme adolescente. C'était un ami de mon père et on se fréquentait, comment dire, familialement. En même temps, j'étais fascinée évidemment par ses discours, ce brio, cette façon de passer d'un siècle à l'autre, d'un siècle, d'un monde à l'autre, d'un domaine à l'autre. Donc j'étais dans une grande admiration en tant qu'adolescente. En même temps, il était difficile d'avoir un dialogue avec lui. Je veux dire, il parlait et on écoutait.
Il soliloquait.
Il parlait de ce qui lui importait. Il parlait avec le brio qu'on vient d'entendre, et donc j'étais en admiration, mais sans avoir le sentiment que il me percevait ou que j'avais une existence quelconque pour lui. C'était une admiration forcément à sens unique, et surtout c'était pas un échange. Et il me semble qu'il est moins important finalement de rencontrer ces grandes personnalités que de lire ce qu'elles ont écrit, parce que c'est à travers ce qu'elles ont écrit qu'elles s'expriment le plus profondément. Et la fascination qu'on ne pouvait pas ne pas avoir en l'écoutant a fait place ensuite à des réflexions, disons, plus critiques que sont celles des historiens de l'art qui font la distinction entre cette littérature sur l'art que Malraux a poussée avec beaucoup de talent, et la connaissance rationnelle des historiens de l'art.
Ça a dû être dur pour vous d'être la fille de votre père dans une communauté d'intellectuels qui était dominée par le débat Aron, qui à l'époque était d'ailleurs très emprisonné dans des clichés aujourd'hui dont il est sorti, comme intellectuel de droite, entre guillemets, ouais, face à l'opposition de Jean-Paul Sartre comme intellectuel de gauche. Comment on s'en sort quand on est une adolescente qui aspire à la culture, qui aspire au pacte républicain, qui aspire à être citoyenne et qui veut s'engager dans des études intellectuelles?
À ce moment-là, le pacte républicain ne jouait pas le rôle dans ma conception, mais c'est vrai que ça...
Parce que vous appeliez toujours Aron?
Oui, je me suis appelée Aron jusqu'à mon mariage, où j'ai changé de nom. Ça n'était pas facile. Ça n'était pas facile parce qu'à la fois, il était très présent et très absent, très mal vu et très mal compris. Il n'était pas compris des intellectuels dits de droite qui sentaient bien qu'il n'en était pas. Et il était considéré comme traître par les intellectuels de gauche. Et donc, la position n'était pas facile. D'autant que je n'ai pas toujours résisté quand j'étais très jeune à l'idée de me comparer. Et bien sûr, c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Et j'ai progressivement, et avec l'aide de mon époux, adopté sans même... Antoine Schnapper. Progressivement et sans tout à fait m'en rendre compte, adopté une règle de conduite qui était ne jamais rien devoir au fait que j'étais la fille d'eux. C'est-à-dire tout devoir à ce que je pouvais faire. Et de ce point de vue-là, le changement de nom... Après tout, je prenais le nom de l'amour, m'a aidé à respecter cette règle et à avoir le sentiment que ce que je pouvais faire ou ce à quoi je pouvais arriver n'était dû qu'à mes propres efforts et à ma propre personnalité. Mais il y a eu de nouveau une période très difficile après 68, puisqu'à ce moment-là, il a été très très mal vu. Beaucoup de gens, même pendant les plus proches, refusaient de me serrer la main ou évitaient d'être dans la condition de me serrer la main, puisque je ne m'étais pas désolidarisée. Et c'était une époque où tout le monde se désolidarisait de ceux qui ne voyaient pas dans 68 l'arrivée des nouvelles lumières. Et donc là, il y a eu de nouveau une période qui m'a rappelé le passé, qui était. Mais j'étais plus avancée dans la vie, j'avais plus le sentiment que... J'avais tracé beaucoup plus modestement, mais enfin tracé ma petite voie. Et nous avons ensemble, avec mon époux, traversé cette période. Et finalement, je crois que mon père est mieux reconnu, en tout cas, ou tout au moins que la reconnaissance qu'il a eue est plus proche de ce qu'il était en réalité.
Comme quoi, le temps peut adoucir, rectifier.
Je pense que c'est qu'il a toujours voulu dire la vérité. Il ne l'a pas toujours dit, puisqu'aucun de nous ne peut prétendre avoir toujours dit la vérité, mais il a toujours cherché à dire la vérité, et que tout de même l'évolution historique a été plutôt conforme à ses analyses qu'à celles de beaucoup d'autres.
Alors, Dominique Schnapper, vous n'êtes pas qu'un pur esprit, un grand esprit. Vous aimez aussi certains plaisirs de la vie, et notamment, je crois, une grande chanteuse que nous allons écouter et que nous avons choisie pour vous.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous. Du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, où les morts furent d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour. C'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, mais j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà. Et le cœur nu, je refaisais mes bagages et poursuivais mon virage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. Celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure, si ce soir je vous jure, que pour vous je lui faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calme ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fais infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Je pleurais mes larmes, mais qu'il me fût doux. Oh, qu'il me fût doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, je pleurais d'amour. Vous souvenez-vous, ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous, à vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir je vous remercie de vous. Qu'importe qu'on peut en dire, je suis venue pour vous dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Barbara, c'était Antoine Antoine, mon époux, qui était un grand admirateur de Barbara et qui me l'a fait écouter. Alors maintenant, il faut que j'ai un bon moral pour l'écouter parce que ça me rappelle une des formes du partage de tout qui a été dans notre vie.
Alors Antoine Schnapper était un grand historien de l'art. Et c'est peut-être par lui et grâce à lui que vous avez pu trouver votre cheminement philosophique, intellectuel et sociologique, Dominique Schnapper, car en tant qu'historien de l'art, eh bien, il vous a emmené en Italie, et ça a été une expérience déterminante. Et vos premiers travaux ont trait à ce séjour en Italie.
Oui, mon premier livre concerne l'Italie et nous avons toujours eu une relation très particulière avec l'Italie parce que les historiens de l'art ont deux patries, la leur et l'Italie. Et donc l'Italie faisait partie de notre monde commun. Mais c'est pas seulement par l'Italie que il m'a permis de devenir ce que j'étais, c'est par l'équilibre profond qu'il y avait entre nous et la compréhension profonde que nous avions l'un de l'autre que j'ai pu tracer ma voie. Et je ne peux pas imaginer ce que j'aurais pu faire si nous n'avions pas eu cette vie commune.
Ce que nous vivons aujourd'hui continue à vous intéresser beaucoup, Dominique Schnapper. Vous dites que vous êtes une sociologue, donc par définition quelqu'un qui a un peu de distance par rapport à l'événement. Or, cette actualité continue à vous concerner. On parlait tout à l'heure du retour de l'antisémitisme. Ce n'est pas pour autant que vous pensez, comme certains intellectuels, que nous assistons à une sorte de revival sinistre des années 30.
Non, il faut tout à fait faire la différence. Il y a de l'antisémitisme et
l'islamophobie.
Il y a aussi de l'islamophobie et dans la population en général, les sentiments contre les musulmans et contre les arabes sont bien supérieurs aux sentiments contre les juifs. Ça, les enquêtes le montrent d'une façon très claire et très régulière. Et d'autre part, il y a une différence fondamentale, c'est que concernant le problème juif, les gouvernements de droite comme de gauche en France ont été impeccables et que tout de même ça change.
Et continue à l'être.
Ça change fondamentalement la situation par rapport à celle des années 30 où l'antisémitisme a été adopté et appliqué par un gouvernement. Donc, il faut tout à fait faire la différence, montrer que c'est un des phénomènes qui sont révélateurs d'une décomposition de la société démocratique, parce que ça la touche dans ses valeurs propres, mais que le problème juif, si je puis dire, n'est pas le seul, malheureusement, n'est pas le seul problème de cette dissolution, ce danger de dissolution du lien social.
Comment peut-on imaginer, dans un avenir assez lointain, que l'esprit démocratique des lois, pour reprendre le titre de votre dernier ouvrage, pourra continuer à constituer le ciment entre les citoyens ? Est-ce que nous n'assistons pas, sans être foncièrement pessimistes, à une remise en cause de la force de la loi ?
Moi, j'ai une vieille croyance, peut-être irrationnelle, dans l'effet de l'appel à la raison. Et donc, on n'est pas professeur, fille de professeur, petite fille de professeur, sans croire tout de même à l'appel à la raison. Et donc, je crois à l'éducation, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur ses effets immédiats, c'est au mieux. C'est un effet à long terme. Mais encore une fois, il faut relativiser, il faut comparer, il faut comprendre. Comprendre ne voulant pas dire excuser, même s'il y a très lointainement un lien entre la compréhension et l'excuse, sans doute, parce que quand on comprend, fût-ce intellectuellement, il y a une part de sympathie humaine qui naît. Donc il est trop simple d'opposer l'un et l'autre. Je pense que c'est par là qu'à long terme, en essayant de comprendre le mieux possible ce qui se passe et en donnant à chacun des éléments qui définissent la situation actuelle, la part qui lui revient, qu'on peut espérer à long terme combattre les passions mauvaises.
Vous êtes une femme très pudique, vous n'aimez pas beaucoup parler de vous, vous avez publié une sorte d'autobiographie qui s'intitule « Travailler et aimer » et vous avez aussi publié un très beau texte qui s'intitule « L'engagement ». Et on s'aperçoit que pour vous, l'engagement c'est aussi l'engagement en amour, amour de la mère, car vous êtes une mère de famille qui vous êtes occupée de l'éducation de vos enfants, amour de vos petits-enfants et aussi, importance capitale donnée à l'amitié.
Oui, la formule du livre est, comme vous savez, celle de Freud qui dit qu'on est l'homme normal et celui qui travaille et qui aime. Et donc, je suis assez banale finalement, telle que vous le décrivez.
Mais on aimerait bien être banale comme vous. Hein.
Ces sentiments, ne sont pas transgressifs et ne sont pas à la mode.
Auriez pu dire aimer et travailler, mais vous avez mis travailler et aimer.
Je crains que Dite Jacob en soit responsable. Probablement, elle avait peur qu'on dise que j'aimais travailler. en tout cas, j'assume sa décision. Oui, c'est ce qui a donné sens à mon existence. Et quand on est à l'âge que j'ai atteint, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger. Oh, il vaut mieux ne pas le dire. Vous le trouverez sur Internet, comme tout le monde. Mais on ne peut pas ne pas s'interroger sur le sens qu'on a donné à sa vie.
Mais l'âge ne fait rien à l'affaire pour être enthousiaste.
Oh,
et
un petit peu, si. Parce que ça veut dire qu'on a encore vécu la Seconde Guerre mondiale. Enfin,
je veux dire
beaucoup de choses. Oui, mais enfin, on est quand même des enfants de la Seconde Guerre mondiale, ce que ceux qui ont quelques années de moins que moi ne sont pas, par définition. Donc, voilà, l'âge a son importance, mais quand on s'interroge sur le sens qu'on a donné à sa vie, travailler et aimer est une sorte de résumé que j'assume.
Merci beaucoup Dominique Schnapper, merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous écrivez. Donc « Travailler et aimer », c'est l'un des derniers livres que vous ayez signé, c'était en 2013, mais il y a aussi l'an dernier « L'esprit démocratique des lois ». Et puis vous parlez toujours d'un dernier livre et d'une impossibilité de continuer à écrire, mais on attend le suivant pour 2017 peut-être.
C'est un petit peu optimiste, mais enfin j'espère que vous aurez le suivant.
Merci beaucoup, merci Dominique Schnapper, merci à Jean-Richard Dufour, Élodie Royer, Corinne Amard, Samuel Bernard, Anne Kobilac, vous écoutez France Culture, bonne fin de soirée.